Bonjour Boris Hurtel et bienvenue sur Radio Grand Papier. Je t'interviewe là au Festival d'Angoulême. Bah, tu as gagné entre autres le prix, c'est le prix BD indépendante l'année dernière avec Dérive Urbaine.
Oui, c'est le prix de la BD alternative.
Alternative, excuse-moi.
En 2015.
En 2015, c'était l'année dernière. Et donc, vous avez pas ressorti de nouveau Dérive Urbaine depuis ?
Non, on prend le temps de faire un projet qui sera un peu plus conséquent.
Ouais.
Ça prend un certain temps. Et par ailleurs, je travaille sur des projets de bande dessinée. Donc, comme je m'occupe de beaucoup de tâches dans la Dérive Urbaine, j'avais pas le temps cette année de pouvoir terminer quelque chose pour Angoulême. Donc, ce sera pour l'année prochaine.
Voilà. Ça sera bien fait, chouette.
Voilà.
Est-ce que tu peux nous rappeler, parce que c'est des projets quand même assez ambitieux, donc c'est normal que ça prenne du temps. Tu peux nous rappeler peut-être un petit peu le principe de base de celui-là, du 6, puisque c'est déjà le 6e numéro.
Alors le principe du 6, c'est qu'on a une revue dont les histoires sont entrelacées parce qu'elles ont des personnages communs, dessinés par différents dessinateurs. Et il n'y a pas un scénario d'ensemble, mais par contre, il y a un système d'entrelacement de personnages qui fait que les histoires s'interpénètrent et qu'au final quand même on a un ensemble, une histoire qui est complète, mais en fait ça n'a pas été nécessairement scénarisé. C'est un peu abstrait comme ça, mais...
Qu'est-ce que tu avais donné concrètement justement comme contrainte aux auteurs pour arriver à faire cet entrelacement ?
Alors j'ai donné des fiches de renseignement sur les personnages qui sont un peu sur le modèle de fiches de la Stasi. Il y a 6 personnages et j'ai donc fait 6 fiches. Je me suis inspiré de personnes qui existent en fait, réellement, dans ma ville de Saint-Ouen, d'où le côté urbain. Et c'est des personnes que j'observe depuis une dizaine d'années. Donc j'ai changé leur nom bien sûr. Et j'ai inventé aussi des relations qui n'existent pas par contre dans la réalité entre ces personnes. Et donc, j'espère qu'elles ne se reconnaîtront pas.
Ah c'est vrai, tu n'auras pas du tout donné le livre après
Non, en plus, certaines, c'est des clochards. Enfin, pour certaines, je les connais que de vue et j'ai fantasmé leur vie.
D'accord.
Parfois, j'aurais aimé discuter un peu plus, mais dans certains cas, c'est vrai que j'ai un peu le regret de ne pas être allé plus loin. Mais en même temps, bon, c'était un jeu comme ça. Alors, donc.
Et tu as donné du coup une matière de départ à tous les auteurs. Et est-ce qu'il y a aussi une linéarité, quelque chose qui commence et qui se finit dans la succession de récits ?
Alors oui, tous les récits sont complets, mais ils sont comme le personnage se retrouve dans un autre récit, on a l'impression que ça le continue, c'est une sorte de montage parallèle.
Et ça fait exister un plus gros univers que juste celui d'un récit. Quoi.
Voilà, on a quand même le sentiment d'un passage, d'une complémentarité entre les récits. Quoi. Donc, qui fait que ça fait une totalité et que la revue... présente un réseau, mais on a l'impression que c'est complet comme un album en fait, alors que c'est quand même une revue, donc il y a quand même plusieurs dessinateurs et des histoires différentes et des styles différents.
Très différents. Et d'ailleurs, comment tu choisis tes dessinateurs
Alors les dessinateurs, je les ai choisis pour certains parce que je les connais, c'est des dessinateurs de Uchikuchi qui avaient envie de se prêter à l'expérience, c'est des copains. D'autres, je les ai contactés par internet. Lucie Castel, par exemple, je l'ai contactée par le biais de Thomas de Fleubleu et Thomas lui-même aussi. Il y a aussi, comme j'ai beaucoup participé au fanzine Georges, qui était en Belgique, il y en a plusieurs dessinateurs qui sont de Georges. Pas dans ce numéro-là, mais dans un précédent, il y avait Gaspard Garcia, il y a Eric Nozal, il y a Alexandre de Motet. Donc tout ça, c'est des copains, c'est des gens avec qui j'ai déjà fait du fanzine. Je sais que ça les intéresse de faire des expériences.
Et d'ailleurs, tu parles d'Eric Nozal, mais vous tenez la table à deux à Angoulême. Est-ce que tu es tout seul à gérer des Dérive Urbaine ou il est là aussi à s'occuper de l'édition et du projet ?
Bien sûr, Eric Nozal que je remercie ici. Donc, Eric Nozal, il se charge de tout ce qui est de la maquette, de la présentation visuelle, mais ça va assez loin parce que dans certains cas c'est vraiment la représentation graphique du concept même de la revue. Pour ce qui est du concept, du choix des dessinateurs, de la relation avec les dessinateurs, ce qui prend le plus de temps, leur expliquer l'histoire, les orienter, les, les rebooster quand ils ont tendance à s'endormir.
C'est toi,
qui m'en charge. Donc tout le côté direction éditoriale, c'est moi qui le fais, mais tout ce qu'on va dire, un peu tout ce qui est direction artistique, mais dans tout ce qui est la maquette et la signalétique, le graphisme, c'est Eric. Et c'est depuis que je collabore avec Eric, donc depuis le numéro 5, qu'on a vraiment développé ensemble quand même cet univers de Capitalia, tant au niveau visuel qu'au niveau du concept, quoi.
Et oui, et justement, c'est un gros concept. Depuis le 5 que vous faites ça, avant, ça a toujours été des concepts aussi complexes, les dérives urbaines, ou les premiers numéros étaient plus... Comment vous faisiez les premiers numéros ?
Alors, les premiers numéros, on ne se connaissait pas. En fait, c'est une revue qui est assez ancienne, elle a 10 ans.
Okay.
Mais comme, on va dire, c'est de la dérive urbaine, ben, des fois, je passe 2 ans ou 3 sans faire un numéro. Donc, en fait, au bout de 10 ans, il n'y a que 6 numéros. Et dans 12 ans, au bout de 12 ans, il n'y en aura que 7, parce que je pense que l'autre, le prochain, il prendra 1 ou 2 ans.
D'accord.
Donc en fait, c'est une revue qui va, on va dire, lentement, quoi, voilà. Mais sûrement. Donc, parce qu'en fait, malgré tout, elle continue au bout de 10 ans, ce qui est pas mal pour une fanzine d'exister, quoi.
Mais la motivation. Enfin, tu donnais déjà des contraintes comme ça aux auteurs dans les premiers numéros ?
Non, mais par contre, j'en avais vraiment l'envie. Et l'envie de faire. Surtout dans le numéro 5, où il y a une ville donc, qui est constituée. À partir de différents plans, donc il s'agissait de faire des BD à partir de plans muets, c'est-à-dire où il n'y a pas de nom de rue, que j'avais trouvé dans la rue. Il y a un côté un peu hasard comme ça. Donc j'avais trouvé ces plans dans la rue et je les ai proposés à 10 dessinateurs ou 15 dessinateurs, parce qu'il y avait 15 zones, 15 plans. Et après on reconstituait la ville à partir de tous les plans. Donc ce côté conceptuel-là, j'en avais envie depuis déjà 2008. Mais en fait, c'est que 7 ans après que j'ai. 6 ans après que j'ai réussi à le réaliser. Parce que j'ai eu le temps, parce que j'avais aussi l'aide d'Eric, que je remercie encore ici.
Sois content.
Et donc, c'est grâce aussi. C'est à lui que j'ai pu réaliser ce concept, mais qui était présent en fait dès le départ. Dès le départ, je voulais faire une revue où les récits sont entrelacés, que ça soit pas juste un catalogue d'histoire, mais une construction collective.
Quelque chose de plus ambitieux. Et oui, c'est une volonté. Ben, le fanzine qui a gagné aussi cette année à Angoulême est un peu dans cette...
Voilà.
A aussi une structure globale qui a été pensée par les auteurs. C'est un peu quelque chose qui est à la mode, ou tu vois ça ailleurs ou...
Alors, je pense que c'est... Je pense que ça vient du fait qu'on a énormément exploré tout ce qui est l'aspect visuel. Et l'aspect technique, c'est-à-dire tout ce qui est en RISO, la RISO, maintenant il y a beaucoup de RISO, mais avant il y avait la sérigraphie, il y a eu de la lithographie, enfin, beaucoup de techniques qui ont été explorées dans le fanzine, et par contre on n'a pas trop travaillé finalement au niveau du scénario, et c'est le domaine dans lequel on peut encore chercher des choses nouvelles à faire. Donc c'est pour ça qu'actuellement il y a plusieurs fanzines, il y a Flûtiste, il y a Laurent 666.
C'est celui qui a gagné le prix de la BD de bande dessinée alternative 2016.
Et qui a sorti un nouveau numéro aussi qui a l'air très très bien, toujours avec ses histoires. Des histoires donc qu'on retrouve dans tout le fanzine, tous les dessinateurs vont travailler sur une même histoire, chacun apportant sa pierre à l'édifice. Et ben tout ça c'est des champs d'exploration nouveaux. Après, quand ça aura été bien exploré, ou quand il y aura déjà une forme de répétition qui se fera, on va en trouver d'autres. Voilà.
Passera à autre chose. Ouais.
Passera à autre chose, mais il y en aura toujours, j'espère.
Voilà. Et donc tu en parlais. Ah oui, déjà les auteurs que tu as eu depuis le début, est-ce que tu te construis un peu une famille d'auteurs comme ça, ou est-ce que tu cherches à diversifier à chaque fois, à aller chercher des gens nouveaux, ou même des gens qui ne seraient pas montrés ailleurs, mais toi t'as envie de les publier?
Alors c'est vrai que au fur et à mesure j'ai surtout envie de travailler avec des personnes qui ont un univers urbain et des bandes dessinées où il y a une petite connotation sociale et politique, mais qui soient quand même des bandes dessinées aussi avec un graphisme et une narration qui me plaît. Et j'aimerais bien découvrir des nouveaux dessinateurs. Mais comme je par le biais des festivals et un peu d'internet, mais des festivals, je regarde un peu ce que font les dessinateurs, et c'est souvent des gens qui ont déjà publié quand même, avec qui je travaille. Ouais. Parce qu'ils ont une certaine maîtrise au niveau du scénario, mais je ne suis pas contre découvrir des nouveaux dessinateurs, mais pour l'instant les tentatives que j'ai faites, ben, ça c'était pas concluant. Quoi. C'était, ça n'a pas donné des bons résultats. Alors quand je travaille avec un dessinateur confirmé et que je lui propose une contrainte, pour lui ça fait un petit peu de changement et du coup ça marche mieux que si... à moins qu'il y ait un exemple, une rencontre bientôt qui me fasse mentir, mais pour l'instant ça a bien fonctionné dans le sens que ça soit des gens qui maîtrisent déjà un peu et qui s'amusent en faisant la participation à Dérive Urbaine.
Ça se comprend, oui. Ok. Et toi-même, comme auteur, du coup, tu as dit tout à l'heure que tu avais participé à pas mal de fanzines, et puis il y a un an ou deux, je ne sais plus, tu as publié Prisonnier des Amazones aux éditions The Uchikuchi.
Oui.
Donc c'était un long récit.
Alors là, c'est une certaine forme de dérive aussi, en fait, dans narrative, on va dire. Puisqu'en fait, Uchikuchi m'avait proposé de faire un livre, donc je leur ai fait déjà un premier livre de 60 pages. Mais moi, je croyais que c'était fini, au bout de 60 pages, j'étais content. On va passer à autre chose. Ils m'ont dit, non, c'est pas terminé là, Boris, il faut que tu continues. Ah, bon alors, donc j'ai fait 60 pages de plus. Là, je dis, c'est bon là, maintenant ça va, il est 120 pages, c'est pas mal. Ils m'ont dit, non, c'est pas encore complètement ça. Donc j'ai fait encore 60 pages de plus et encore 60 pages de plus. Donc. Et là, par contre, j'ai vraiment une histoire complète avec un cycle. Donc, l'histoire d'un aventurier qui part en Amérique du Sud, par dépit, aussi parce qu'il veut se prouver à lui-même qu'il est capable de s'engager dans quelque chose et qu'il se retrouve embarqué dans une guérilla féministe. Et après, il y a eu toute l'histoire de son retour en France. Donc tout ça, ça s'est fait en collaboration avec Uchikuchi qui me relançait en permanence. Et donc c'était intéressant, quoi. C'est un peu un roman expérimental. Un peu dans quelque chose de manga aussi.
Ouais, c'est en fait le livre est tout petit, c'est en noir et blanc, et peut-être on peut parler un peu de ton graphisme. T'as un graphisme assez simple, ça pourrait ressembler à la lino presque, sauf que c'est un peu lâché au pinceau.
Voilà, donc c'est un style qui permet d'aller assez vite, donc c'est vrai que ça se prête bien, c'est un style un peu, on va dire, un style écrit, quoi. Ouais. Puisqu'en fait ça permet vraiment de faire de la narration, d'aller assez vite. Moi-même, je peux faire 2-3 pages par jour quand je me mets vraiment au boulot, mais donc ça permet aussi de rentrer soi-même dans le récit, dans ce qu'on est en train de raconter. Donc c'est un style économique. Après, je voulais rajouter maintenant d'autres aspects, peut-être des trames et d'autres effets, travailler avec d'autres techniques. Mais
des couleurs.
Alors des couleurs aussi, ouais, ça m'intéresse de faire de la couleur. Mais là, c'est pour ce qui est de du Prisonnier des Amazones, c'est en noir et blanc à l'encre de Chine. C'est un style tachiste, on va dire. Tachiste.
Ça ressemble un peu au roman de... Je ne me rappelle plus de son nom, mais c'était un graveur qui faisait comme ça, qui avait fait une idée, par exemple. Graveur du début du XXe siècle.
Ouais, dont je n'ai pas le nom en tête là, mais je vois ce dont tu parles.
C'est Mazerelle.
Oui, Mazerelle, ouais, c'est Mazerelle. Mazerelle, c'est mine de rien, Mazerelle, on voit qu'il passe du temps sur chacune de ses illustrations, parce que c'est de la gravure sur bois et ça prend beaucoup de temps. Mais... alors que moi, c'est quand même de l'encre, mais c'est vrai que ça peut évoquer, mais on sent que chez moi, il y a quand même une certaine vitesse, mais c'est jeté quand même. Alors que Mazerelle, c'est plus posé, quoi. C'est plus travaillé, même si ça joue vraiment sur le contraste du noir et du blanc, sur le passage, tout ce qui est intermédiaire saute, quoi. Donc on a un style elliptique, voilà, elliptique.
Toi, tu travailles beaucoup aussi tes personnages, non ? Parce qu'ils sont très très simples, c'est juste un nez, une bouche, enfin...
Yeux.
Mais on les reconnaît très très bien, à chaque fois ils sont bien caractérisés par le...
En fait, il y a aussi le fait que le regard du lecteur complète ce qui n'est pas dessiné. J'essaie de jouer avec ça aussi. C'est vrai qu'on se demande pourquoi on passe des fois autant de temps sur... en dehors du fait que ça procure un plaisir esthétique quand on le lit, mais on pourrait raconter des bandes dessinées avec très très peu de choses. Et pourtant, emmener le lecteur dans un univers complètement... étonnant et avec des personnages assez profonds psychologiquement, et c'est ce que j'ai essayé de faire en utilisant très peu de moyens.
Voilà. Là, c'est une belle réussite. C'est très bien que vous avez des Amazones. Et du coup, tu continues à publier dans des petits fanzines, dans des plus petits fanzines que...
Alors pour l'instant, en fait, j'ai plutôt envie de... J'ai un peu arrêté toutes mes participations dans des fanzines. J'ai fait de participation entre 2008 et 2013, 2014. Et j'ai fait énormément de petites histoires de 5 pages, une soixantaine dans une dizaine de fanzines. Mais en fait, là maintenant, je crois que je suis allé jusqu'au bout de cette démarche de micro-histoire comme ça. Et donc, j'avais envie plutôt de continuer à être dans des longues histoires. Donc c'est aussi pour marquer ce passage, la fin de ce cycle, que je voulais faire un recueil d'histoires courtes qui sortira cette année.
Ok, très chouette. Tu as déjà une maison d'édition peut-être?
C'est la mienne. C'est-à-dire que c'est l'association Une Autre Image que j'ai, avec laquelle j'édite Dérive Urbaine. Donc c'est des copains et c'est moi qui ai fondé l'association. Mais donc c'est par le biais de cette structure que je vais faire le livre, le recueil. C'est bon, j'avais envie d'aller vite et puis voilà. Et de quand même faire quelque chose cette année aussi avec cette maison d'édition.
Chouette, ouais, parce que du coup le Dérive Urbaine suivant sera pour dans 2 ans plus ambitieux. Et plus
voilà.
Donc okay, c'est ça tes prochains projets.
Prochain projet c'est ça. Après je suis pas fermé aussi à faire l'édition pour d'autres personnes, d'autres livres. Mais il faut vraiment, on n'est pas nombreux actuellement à s'occuper de la maison d'édition et je peux pas, compte tenu de mes projets, peut-être que je trouverai le temps de le faire, mais on verra quoi.
Ok, on te le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Boris.
Merci Maxime.